Oui, il y a eu tout de même eu un grand progrès en justice, en liberté, en bonheur, de 1945 à 1965. Je crois qu'il faut nous attendre à un progrès comparable, sinon supérieur, de 1965 à 1985.
Souvenirs d'un avenir radieux.
Je crois que le monde de 1985 sera un monde plus libre, plus drôle que le monde de 1965.
Un avenir radieux.
Prédiction pour le présent et pour l'avenir. Invention, découverte et progrès dans toutes les sciences.
Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer.
Comment j'ai fait pour pas le voir, ce type, c'est un mystère. Hein.
Mais peut-être que la caméra était dans une voiture.
Non, ça n'a pas l'air d'être filmé à travers une vitre.
Quelque part, sur la maison.
C'est idiot, je sais pas quoi dire. T'as pas une idée, toi, qui pourrait s'amuser à ça?
Comme il se doit, l'histoire de la technologie des caméras de surveillance commence par un point Godwin. C'est un ingénieur allemand qui travaille pour Siemens et le régime nazi, dans le cadre de la création du missile V2 en 1942, qui invente le procédé qui permet de filmer des images et de les diffuser sur des écrans à proximité, la télévision en circuit fermé. Cela permet de connaître les dysfonctionnements des missiles lors de leur lancement. Cet usage de la caméra en circuit fermé restera en standard dans la course à la Lune d'après-guerre. Mais la technologie est vite adaptée à d'autres usages. Dans l'enseignement médical, elle permet par exemple aux étudiants de suivre des opérations chirurgicales en direct, sans se trouver dans la salle d'opération. Et très vite, les caméras servent à surveiller les places ou les bâtiments. C'est le cas par exemple du siège du Parti communiste français à la place du colonel Fabien à Paris. Lors de son inauguration en 1973, il était à la pointe de la technologie avec ses caméras de surveillance. Gare à qui voudrait nuire à Georges Marchais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Montrez-vous, espèce de lâche! Montrez-vous et dites ce que vous voulez!
Lausanne semble être une pionnière dans le domaine des caméras de surveillance. Alors qu'à New York, ce n'est que au début des années 1970 qu'une caméra vient orner Times Square, à Lausanne, c'est depuis 1963 que les principaux carrefours de la ville sont filmés. Le nombre des caméras va augmenter avec le temps dans la capitale vaudoise.
À Lausanne, on en dénombre 23 en 1982.
Elles servent à observer le trafic. Interrogé à leur sujet en 1994, le sergent Daniel Gay de la police lausannoise déclare
« Que nous avons une alarme de banque, nous essayons de diriger nos caméras. Et on a le même réflexe pendant les manifestations, pour garder des images pour nos archives personnelles. »
Hier, ma secrétaire a déposé une cassette sur mon bureau. Elle m'était personnellement adressée, sans lettre d'accompagnement. Normalement, elle ne me transmet même pas ce genre de choses. Elle y jette un coup d'œil et ça part à la poubelle, inutile de vous dire. Mais là, elle a cru devoir m'en informer. Alors la cassette vous montre, lors d'une conversation privée, avec un homme dans une sorte de studio. On ne comprend pas vraiment de quoi il retourne, et de plus, je n'ai pas voulu te regarder, ça me semblait indiscret, mais visiblement, vous ignoriez que vous étiez filmé. Alors je voulais simplement vous demander si vous savez ce que c'est, et le cas échéant, ce que vous en pensez.
Je suis désolé qu'on vous ait importuné avec ça. Cet homme est le fils d'ouvrier agricole algérien qui travaillait chez mes parents vers 1960. Il s'est pris d'une haine pathologique envers ma famille et il tente de me nuire avec ce genre de choses, je suis désolé.
Je vous en prie, Georges, j'imagine que c'est très désagréable pour vous. Vous êtes allé voir la police?
Oui, bien entendu, ils ne feront rien puisqu'il n'arrive rien de dramatique.
Et pourquoi vous est-il à ce point?
En 1977, Gabriel Kröcher et Christian Müller, deux membres du mouvement du 2 juin, sont incarcérés en Suisse dans l'attente de leur procès pour l'assassinat de deux douaniers à la frontière germano-suisse. Incarcérés à l'Amtshaus de Berne, ils sont soumis à des conditions d'incarcération exceptionnelles. Cellules aveugles, lumière 24h sur 24, privés de journaux, promenade de 20 minutes dans une pièce aérée et surveillance vidéo permanente. Ils font recours contre la situation de leur détention et en juin 1978, le tribunal fédéral déclare que la présence de ces caméras de surveillance porte gravement atteinte à la liberté personnelle des détenus. En décembre 1980, une manifestation a lieu à la prison de Regensdorf où plusieurs caméras de surveillance sont détruites. En 1984, la FTMH, par le biais de sa secrétaire Christiane Brunner, porte plainte contre une entreprise d'horlogerie de Porrentruy qui faisait surveiller à leur insu les travailleuses dans de ses ateliers. Selon le directeur de l'entreprise, c'est pour augmenter la productivité que des caméras ont été installées. La plainte porte sur l'atteinte à la personnalité des travailleuses et le syndicat gagne le procès. En mars 86, à Saint-Gall, une manifestation contre les investissements bancaires en Afrique du Sud a lieu. La police fait surveiller la manifestation par ses caméras destinées à la surveillance du trafic. Suite à une votation, celle-ci se voit affublée d'un objectif déformant afin qu'il ne soit plus possible d'identifier les gens sur les images. Armée, prison, travail, en voilà de beaux parents. La vidéosurveillance a une histoire qui ressemble à celle des autres technologies de surveillance ou de contraintes de masse qui pourrissent nos vies. On l'applique d'abord au domaine militaire, puis au carcéral, au milieu du travail, puis elle s'étend à tout. Au prix où se vend la vidéosurveillance, aucun politicien amateur de croissance économique ne pourrait remettre en question ce juteux business. Et il s'en trouve encore, des amateurs de pragmatisme, des experts en criminologie, pour parler de vidéoprotection quand on a affaire au vidéoflicage de nos vies, pour penser que la caméra de surveillance est un outil innocent qui répond à une demande légitime pour plus de sécurité. L'éclosion de caméras de sécurité dans tous les recoins de la métropole sont l'actualisation du grand rêve panoptique de Jeremy Bentham. Le panoptique n'est plus un bâtiment différent des autres, à part la prison, l'école, l'hôpital. Le panoptique est partout. Alors que dans les fantasmes de progrès des philosophes des Lumières, seules certaines populations dangereuses devaient demeurer sous le regard permanent d'une autorité, aujourd'hui, tout le monde, dès qu'il quitte son doux foyer, se trouve confronté à un pouvoir dont on n'est jamais certain qu'il nous observe, mais dont on est toujours certain qu'il peut nous observer.